Le 22 septembre 1989, l'eau douce jaillit à Molène.
La mer à boire. La série sur la précarité d'accès à l'eau dans les îles bretonnes, réalisée par les étudiants et étudiantes en journalisme de l'IUT de Lannion. Épisode 2. Molène et l'accès à l'eau. Une longue histoire.
Mesdames, messieurs, Molène. Molène, débarquement en cours pour Molène. Bonne journée à vous.
Ah, quelques passagers qui descendent du bateau, mais la plupart se dirigent vers Ouessant. Alors, il n'y a pas beaucoup de bruit sur le quai. On entend les oiseaux, les vagues, mais surtout le vent. La petite île du Finistère fait moins d'un kilomètre carré. En moins de 20 minutes, on peut la traverser à pied. Il y a 164 habitants qui y vivent à l'année. Molène et l'accès à l'eau, c'est une longue histoire. C'est ici qu'on trouve la plus ancienne trace écrite évoquant les problèmes d'eau sur les îles bretonnes. Et c'est dans les doléances faites au roi en 1789 que se trouve cette trace.
Thomas Chiron est l'auteur d'une thèse sur l'accès à l'eau dans les îles bretonnes.
L'eau douce est l'un des premiers besoins. Dans Molène, il n'y a qu'un puits où on en peut puiser. La mer est au moment d'y gagner et les habitants ne sont pas en état de faire les dépenses pour arrêter le cours de ses ravages. Ce puits manquant, l'île deviendrait inhabitable. Il est pressant d'y remédier, on ne refusera pas à ces habitants isolés, si précieux à l'État, si utiles à l'humanité, des secours dus à leur situation et à leur extrême pauvreté. Donc c'est vraiment le sujet finalement de l'île, c'est sans eau, on a une île, mais une île qui risque de ne pas être habitée, quoi, en tout cas, quoi. Et c'est vrai qu'à travers cette doléance, il y a le sujet effectivement de l'isolement et de la pauvreté hein, qui est remise en exergue, mais il y a aussi le fait que ces habitants isolés, si précieux à l'État, si utiles à l'humanité, c'est notamment par rapport aux services rendus en termes d'aide à la navigation. Je pense qu'ils permettaient notamment de sécuriser certaines voies de navigation à l'époque. Et puis les connaissances aussi pour naviguer dans tout le périmètre entre les îles, quoi.
La ruelle est étroite. Juste sous le sémaphore, là, on arrive devant une petite maison en pierre avec des fenêtres tout aussi petites et un muret juste devant qui est lui aussi en pierre.
Entrez. Encore de la pluie. Oui, le matin, moi, quand je me lève, je regarde le coq. C'est lui qui me dit où est le vent. Le coq qui est sur l'église. Asseyez-vous. Étant dans la marine, je venais emmener de l'eau de Brest sur les bateaux militaires. Je m'appelle Skiban Louis. Je suis retraité de la marine nationale. J'ai 78 ans. Et je suis en retrait de la marine depuis mes 47 ans.
Molène est toujours dépendante de la pluie pour s'approvisionner en eau potable. Ici, il y a un système de citernes individuelles et collectives. Dans les années 1970-1980, il ne pleut pas beaucoup. Le manque d'eau se fait alors ressentir. Et à cette période, la solution est de réapprovisionner l'île avec de l'eau potable du continent, livrée par des bateaux-citernes à vapeur.
On mettait plus de 3 heures pour venir de Brest à Molène. Le bateau faisait 250 tonnes d'eau. Potable, bien sûr. Et on venait au charbon, quoi. On gardait 10 tonnes pour les chaudières et on délivrait 240 tonnes sur Molène. Il y a donc une citerne qui est à côté, là, à côté de l'église, là. Une citerne communale de 250 tonnes, exactement. Moi, j'étais plutôt, si vous voulez, mécanicien, quoi, pour mettre le charbon dans la chaudière. Il y avait des branchements qui se faisaient soluquer et qui allait jusqu'à la citerne près de l'église. J'étais, si vous voulez, un peu corvéable, parce qu'on me disait, où j'étais dans la marine, toi, tu es de Molène, tu vas aller envoyer l'eau à ta famille. Alors bon, ouais, on était noir pour arriver et noir pour partir le soir.
Et pour les habitants, cette distribution annuelle était attendue. Jean-Yves Le Gall, ancien gestionnaire de la réserve naturelle, est né sur Molène en 1950. Il a grandi en voyant les bateaux distribuer l'eau.
Il y a l'Andienne qui venait là, je crois, dont était chargée d'eau. C'était une fête pour nous. Moi, j'étais tout jeune, mais bon, je me rappelle bien de ça. On se disait, on aura l'eau, quoi. Voilà, sinon, on avait de l'eau pas toujours propre, quoi.
Étant gosse, si vous voulez, même avant j'étais dans la marine, j'ai vu ça, quoi. J'ai vu ces bateaux-là qui ravitaillaient l'île.
Les Molénais et les Molénaises, ils venaient sur le port voir l'arrivée du bateau.
Bah, pour nous, c'était un peu du folklore, quoi. C'était un truc comme il n'y a pas beaucoup ici de loisirs. Ah, le bateau d'eau qui arrive. Bon, bah, le bateau d'eau, on savait, il y avait un peu de mouvement sur le quai. Les gens donnaient un coup de main pour rallonger les tuyaux d'eau partout. C'était pour nous tout à fait logique. Il y avait quand même, je vous dirais, à peu près 600 mètres de manche, à peu près, quoi. Les pêcheurs étaient au large. Moi, j'ai vu des femmes donner un coup de main pour passer des tuyaux. C'était la vie, hein. c'était comme ça. Ça dépend des périodes de sécheresse, comme je vous dis. Des fois, l'été, on est 3-4 fois, hein, pendant l'été.
Les livraisons d'eau par bateau, c'était courant à cette période. Elles s'inscrivent comme symbole de la difficile gestion de l'eau sur l'île et du rapport qu'ont les habitants avec l'eau potable.
La ressource, elle s'est limitée pendant des années à quelques puits qui allaient chercher en fait l'aquifère, donc la ressource en eau. Le truc, c'est que dès qu'il pleut plus, le puits est tari, donc il n'y a plus d'eau. Puis après, ils ont commencé à récupérer un petit peu l'eau dans des citernes avec la récupération des eaux sur les toitures. Et finalement, jusqu'en 1989, il n'y avait que ça en fait. Il y avait... à la fin du 19e, la construction de l'impluvium des Anglais, et ils avaient fait des travaux au début du 20e pour connecter la toiture de l'église aussi sur la citerne des Anglais. Donc ça, c'est début du 20e siècle. Et ensuite, il y a eu pas mal de crises, effectivement, de sécheresse dans les années 20, dans les années 40 aussi. Et ensuite, les années 80 ont été très, très difficiles. Et puis, parallèlement... Moi, j'avais été surpris, en fait, dans les données INSEE, du faible taux d'aménagement en sanitaire des maisons molénaises, notamment. Où, finalement, le confort sanitaire dans les maisons est venu très tard par rapport à d'autres, par rapport au continent. Alors, on peut faire le parallèle avec les milieux ruraux, hein, finalement, où c'était un petit peu la même chose. Mais dans les années 80, vous avez des standards aussi qui commencent à évoluer en termes de sanitaire, donc une demande en eau un petit peu plus importante. Et donc des années 80 très difficiles au niveau hydrologique. Et donc une crise sévère en 89, mais il pleut quasiment pas de l'hiver. Et donc dès fin 88, ça commence à devenir tendu. Et dès le printemps 89, ils sont ravitaillés en eau. Et donc là, ça commence à être chaud. Donc bon, ils ravitaillent. Et puis ils envoient justement un sourcier pour voir s'il n'y a pas moyen de trouver finalement de l'eau en profondeur, puisque les techniques de forage se développent. Le 22 septembre 1989, l'eau douce jaillit à Molène. Et on va retrouver même le nom, je pense. Alors, l'usine de dessalement en est une de solutions, effectivement. Elle fonctionne à l'île de Sein. Cette solution n'est pas écartée, mais à Molène, quelques personnes avaient l'intime conviction que le sous-sol recelait de l'eau. Et M. Marcel Masson, maire, faisait partie des croyants. C'est rigolo quand même. Et le 15 septembre, à 11h, l'eau jaillit à moins 58 mètres de profondeur. Enfin, jaillit, mais ils sont descendus à moins 58 mètres de profondeur. 500 litres à l'heure. Et c'est là qu'ils commencent à sortir justement du modèle en se disant, bon... On n'a pas besoin de dessaler, il faut juste qu'on gère l'eau de sous-sol de manière intelligente, qu'on puisse en stocker. D'ailleurs, ils ont fait des réservoirs en plus.
Pourtant, la ressource en eau à Molène reste tout de même limitée. Jean-Yves Le Gall, comme tous les Molénais et Molénaises, a grandi en apprenant à l'économiser.
Je pense, si vous voulez, que donc on emploie beaucoup plus d'eau maintenant qu'autrefois, ça c'est sûr. Ne serait-ce que pour se laver, maintenant on prend une douche tous les jours, voilà. Autrefois, donc, on prenait une douche une fois par semaine. Et on se lavait donc dans une cuvette, qu'on mettait de l'eau chaude dedans, quoi. C'était naturel, je pense, ouais. Ouais.
Quand l'eau venait à manquer et que l'île était ravitaillée par bateau, elle était acheminée dans la citerne des Anglais, qui se situe juste derrière l'église. On la voit pas vraiment, à première vue, c'est juste un muret et une cour intérieure. Pourtant, 29 dalles recouvrent la cuve en béton enterrée qui fait à peu près 250 mètres cubes d'eau. Cette citerne, c'est la couronne d'Angleterre qui l'a offerte aux Molenais suite au naufrage d'un navire, le Drummond Castle. Ça s'est passé en 1896. À l'époque, ce paquebot anglais s'échoue au large de l'île. Plusieurs centaines de personnes meurent, seulement 2 survivants sont sauvés par les Molenais et Molenaises, et 29 corps sont repêchés sur les côtes de l'île où ils seront ensuite enterrés. C'est donc pour remercier l'île d'avoir sauvé les 2 survivants et donné des funérailles aux 29 morts que la reine Victoria aurait décidé d'offrir la citerne de récupération d'eau de pluie. Cet échouage, c'est un tournant dans la vie des Molenais et Molenaises, et elle est toujours en activité aujourd'hui. Les Molenais et Molenaises ont toujours dû s'adapter à ce manque d'eau. On va aller voir Gwenola Gervais dans son auberge, qui se trouve juste sous le sémaphore. De la cuisine, on voit la mer tout autour. Et c'est ce qu'elle veut faire découvrir, cette transmission du savoir sur l'eau.
C'est d'abord un projet associatif qui s'appelle Culture BZH Ilienne, qui a vocation à soutenir la vie insulaire et à accueillir aussi les gens sur la vie, créer des immersions insulaires. Et un des moyens, c'est d'avoir une auberge pour pouvoir accueillir les gens et qui reste dormir pour vivre de longues immersions insulaires. Elle s'appelle l'auberge Molenaise.
Et justement, dans l'auberge, il y a une volonté de transmettre la gestion de l'eau sur l'île, la manière dont on vit l'eau ici.
C'est ça, en fait. Sur les îles, encore plus sur Molène, il y a une façon un peu particulière de gérer l'eau, notamment avec l'eau de pluie, la seule source d'eau de l'île. Et historiquement, les maisons ont leur citerne, et comme mes grands-parents, ils vivaient qu'avec l'eau de leur citerne. Donc on accueille les gens et on leur montre comment on vit avec de l'eau limitée. Nous, à l'auberge, on a 2 sources d'eau. On a l'eau du service public qui vient de la grande citerne à l'arrière de l'île et qui est potable. Donc, c'est un tuyau d'eau qu'il y a dehors. Donc là, il faut aller remplir avec son jerrycan, aller remplir le jerrycan de l'eau. Et avec cette eau, on peut la boire et cuisiner avec. Et la deuxième source d'eau, c'est notre citerne individuelle. Là, c'est de l'eau de pluie qui tombe sur la toiture et qui va dans la citerne. Et là, on peut prendre sa douche avec. Mais pour prendre sa douche, il faut chauffer l'eau. On fait en sorte de ne pas avoir l'eau chaude au robinet, parce que quand il y a l'eau chaude au robinet, bah, on laisse l'eau couler plus longtemps. Donc, on limite l'eau avec 15 litres, soit dans une douche solaire à pompe, soit au seau directement. On chauffe avec une bouilloire, on met ça dans le seau et on remplit de l'eau froide et on prend sa douche comme ça. Moi, je suis convaincue que la conduite de changement, c'est pas juste de l'information. Si on me donne juste un chiffre, moi, ça me parle pas. Par contre, quand ma fille de 6 ans, elle a vu l'eau qu'il y avait dans la citerne, je me rappellerai toute ma vie. Il y a un an et demi, on a signé l'acquisition de la maison. Un an après, on regarde le niveau de la citerne à l'œil nu, hein, donc on sait pas le volume, en fait. Hein. Et Bleuenne, elle me dit « Maman, t'as vu toute l'eau qui a été consommée ? Regarde !» Ça, c'est qualitatif comme impression.
Notre citerne, elle est à l'ouest.
Elle est à l'ouest du jardin. C'est toujours drôle de savoir que c'est nos anciens qui les ont construit, toutes ces choses, en fait. Et les histoires de citernes, en plus, à Molène, j'ai appris il n'y a pas longtemps que c'est venu la construction des citernes individuelles. Elle est venue avec les métiers de constructeurs de phares. Comme ils venaient faire les phares en mer, on avait le droit aussi les matériaux, tout ce qui est transport de matériaux. Et c'est comme ça qu'ils ont fait pas mal de citernes individuelles. Alors, bah, c'est un gros bloc en béton. Ça fait comme une piscine, en fait, en béton. Hop là, on va essayer d'ouvrir. Je crois que je vais pas réussir parce que... En général, je suis pas toute seule pour l'ouvrir. Check. Ah ! Ça, c'est notre trésor, vous entendez ? Et bien là,
elle est pleine. Elle est vraiment pleine, notre citerne. Parce que comme on n'est pas encore ouvert, on n'a pas beaucoup de passages. Et puis qu'il pleut bien aussi. Il pleut bien. Voilà, donc là on la voit. Et puis en été, bah, quand on revient, on voit où est le niveau. Ça permet de réaliser vraiment notre quantité d'eau.
Jean-Yves Le Gall nous rejoint à l'auberge pour prendre un café. Il a 74 ans et a grandi sur Molène. Aujourd'hui encore, il n'est pas raccordé au réseau. Sa citerne individuelle lui suffit.
C'est vrai qu'on buvait de l'eau de la citerne et on boit toujours de l'eau de la citerne. Voilà, et même si c'est pas ça, mais on tombait pas malade. Tout le monde a toujours bu. C'est-à-dire que j'avais une tante qui habitait dans la région parisienne et qui envoyait des cachets avec elle. Et nous, on pensait que c'était pour faire la limonade. Et en fin de compte, non, c'était pour désinfecter l'eau, quoi.
Je connais un certain nombre de Molénais et Molénaises qui, même avec l'eau potable au robinet, continuent à cuisiner,
ouais,
et,
tout à fait, cuisine comme ça.
Et boire avec l'eau en bouteille.
Non, mais moi, autrement, le café, tout ça, je cuis des araignées ou des crabes ou je fais à manger, ma femme fait à manger, c'est avec de l'eau de la citerne.
Tous ces changements ont aussi modifié la manière de penser l'eau des habitants, notamment avec l'arrivée de l'impluvium et du raccordement au réseau. Thomas Chiron est l'auteur d'une thèse sur l'accès à l'eau dans les îles bretonnes.
En tout cas, une chose est sûre, c'est que vous modernisez les infrastructures, vous amenez l'électricité derrière, après, un petit peu plus tardivement, mais malgré tout. Vous amenez de l'eau courante avec du pompage directement dans les maisons. Bah, le rapport à l'élément en tant que tel, il n'est plus le même. Vous n'êtes pas obligé de traverser le bourg pour aller chercher de l'eau au puits ou vous tirez de votre citerne. Ah, vous tournez le robinet dans votre maison, même si vous n'avez qu'un seul point d'eau, malgré tout, c'est nettement plus simple. Elle est filtrée. Et après, vous l'avez en plus en eau courante quand l'électricité arrive. Donc ça, c'est quand même plus la deuxième moitié du 20e. Et derrière, avec l'électricité, arrivent les premières machines aussi. Machines à laver, des choses comme ça qui font aussi que... Bah, vous n'allez plus au lavoir. Donc il y a vraiment une modification qui est dans les 30, peut-être les 30 glorieuses, qui induisent forcément une augmentation des consommations d'eau assez importante.
Pourtant, malgré ce changement de perception, les pratiques d'économie d'eau sont ancrées dans les habitudes des Molénais et Molénaises, mais aussi de certains enfants et petits-enfants des Iliens, comme ceux de Louis Quiban, qui n'ont pas grandi sur l'île.
Nous, vous savez, quand les enfants, les petits-enfants viennent pendant l'été chez nous, on leur dit, ici, on ne gaspille pas l'eau. Hein. On fait attention, quand je lave les dents, on ne laisse pas couler pendant une demi-heure le robinet. Ici, on fait attention. Et maintenant, ils font ça chez eux aussi. C'est comme ça. Si tout le monde s'en fout, après, il ne faudra pas venir pleurer. Hein. Même si on le dit aux enfants, eux le diront à leurs enfants également. Et c'est comme ça que ça marche.
C'était le deuxième épisode de La Mer à Boire, la série sur la précarité d'accès à l'eau potable dans les îles bretonnes, réalisée par Bleuen Lelay, Armand Morera et Eflam Siono. Supervision, Olivier Trédan, Philippe Gestin et Aurélie Fontaine. Musique et aide au mixage, Victor Blanchard. Dans le prochain épisode, à Groix, l'industrie s'adapte face au manque d'eau.